Alors, vous savez tous donc que Lutte ouvrière présente une liste aux élections européennes du 26 mai. Cette liste, elle est conduite par Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier, ici présent, donc deuxième de la liste. Moi-même, Marissa, je fais partie de cette liste. À côté de moi, Dominique Leclerc, qui est militant aussi de Lutte ouvrière, qui travaille à Michelin. Sur cette liste, il y a 79 candidates et candidats qui représentent donc le monde du travail. Il y a des employés, des ouvriers, des infirmières, des cheminots, enfin que sais-je encore. Donc on l'a déposée, elle est validée, voilà. Donc avant de partir tout à l'heure, je vous indiquerai, mais on a une table de presse, on a plein de choses puisqu'on est en campagne électorale. Et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Pierre. Voilà.
Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je vais parler doucement, puisque dans le micro, ça va exploser. Ce que je vous propose, c'est je vais faire une petite introduction, dire quelques mots sur la situation sociale et politique, et puis sur la situation du monde du travail, dans le cadre qui se raccroche aussi dans cette campagne électorale pour les européennes. Et puis après, on pourra discuter entre nous, débattre, exprimer nos désaccords, nos remarques, voilà, toutes les questions qui nous gratouillent, et on tentera d'apporter nos réponses. Voilà, donc Marie l'a dit, cette réunion s'organise dans le cadre de la campagne électorale pour les européennes. Donc je vais dire quelques mots sur notre projet européen, sur notre perspective pour l'Europe. Voilà, contrairement aux autres partis politiques, je pense là du coup, quel qu'il soit, nous, notre conception que l'on se fait de l'Europe, c'est une Europe unie, sans frontières, sans barbelés, et une Europe comme on l'entend au sens géographique du terme, c'est-à-dire du Portugal jusqu'à la Russie, de la Grande-Bretagne jusqu'à la Turquie, une Europe des travailleurs. Alors évidemment, on est extrêmement loin du compte, puisqu'aujourd'hui, cette Europe que l'on connaît depuis des années et des années est tout le contraire. C'est une Europe qui a été construite par les capitalistes, pour les capitalistes. C'est une Europe qui est là pour protéger les intérêts des plus riches de ces pays. Mais nous, on est internationalistes. C'est-à-dire qu'on est convaincus et on défend cette idée qui nous paraît fondamentale que par-delà les frontières, les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, ont les mêmes intérêts face à leurs patrons, face à leurs bourgeois, face à leurs exploiteurs et face à leur gouvernement. On est à l'opposé de ce que Emmanuel Macron et Marine Le Pen essayent de faire et de défendre comme idée. Nous, on est pour l'union des travailleurs par-delà les frontières et on combat cette idée que eux défendent. C'est-à-dire que les pauvres soient dressés contre les autres pauvres, que les travailleurs se fassent concurrence les uns contre les autres. Cette Union européenne, on le sait tous, on l'a tous constaté, elle a apporté rien de bon pour les travailleurs. C'est une machine de guerre contre les travailleurs, tout comme l'État français est une machine de guerre contre les travailleurs. Les institutions françaises sont aussi là pour protéger les intérêts des plus riches en France. Et nous, évidemment, on combat cette idée. Mais on se refuse de tomber dans ce piège de ceux qui se présentent comme pour défendre une Europe sociale. Ils osent même le mot « Europe sociale » comme Emmanuel Macron, ou les souverainistes comme Marine Le Pen. Pendant des années et des années, ils ont essayé de nous faire marcher gauche-droite. Là, ils essayent de nous jouer une musique un tout petit peu différente, mais sur le fond qui est exactement la même. C'est ceux qui seraient pour l'Europe et les autres qui seraient contre l'Europe, pour les nations, etc. Nous, on se présente dans ces élections européennes justement pour proposer aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités un troisième choix. Un choix qui n'est représenté par aucun des autres partis. On se présente pour que les travailleurs les chômeurs, les retraités du monde du travail, ils puissent exprimer dans ces élections européennes qu'ils ont des intérêts spécifiques à défendre contre les bourgeois, contre le grand capital, contre les grands patrons, et pour dénoncer les politiques de ces gouvernements. Parce que ça nous paraît essentiel. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, où ils essayent de sortir de l'Europe avec le Brexit, en ce moment, ce sont les travailleurs anglais qui payent la note de la sortie de l'Europe. C'est eux qui payent la note en termes de fermeture d'usines. Un bon nombre de patrons ferment des usines pour revenir sur le continent. Ils le payent en termes de recul de leurs droits collectifs, de blocage de salaire, d'explosion du chômage, etc. Et nous, on pense que, de toute façon, si on devait sortir de l'Europe, ça serait les travailleurs qui paieraient la note. Et si on devait rester dans l'Europe, ça serait les travailleurs qui paieraient la note, de toute façon. Parce que dans cette société, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux. Soit c'est les bourgeois qui payent, soit c'est les travailleurs qui payent. Et justement, on se présente dans ces élections et on appelle à faire voter pour la liste lutte ouvrière pour que les travailleurs, ils expriment un choix différent, qui disent, nous, en tant que travailleurs, en tant que chômeurs, en tant que retraités, on a des intérêts spécifiques à défendre, il faut qu'on défende notre peau dans cette société. Parce que nos conditions de vie sont attaquées depuis des années et des années, et vont continuer à être attaquées dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Il n'y a rien qu'à écouter la conférence de presse d'Emmanuel Macron, enfin, même si vous ne l'avez pas écouté, de toute façon, vous n'avez pas perdu grand-chose, il n'y a pas eu de scoop qui a été annoncé, c'est de toute façon nous qui allons payer. Alors évidemment, il ne le dit pas comme ça, il l'enrobe, il l'habille, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, et là c'était vraiment très clair dans ses propos, c'est surtout pas les milliardaires qui vont payer quoi que ce soit. C'est pas le grand capital, le grand patronat qui va mettre la main à la poche pour faire fonctionner cette société, pour financer, soi-disant, la baisse d'impôts qui est promise. C'est nous qui allons payer, sous forme de d'augmentation du temps de travail. Ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est qu'on va travailler plus et plus longtemps. Quand ils parlent de faire baisser les impôts sur le revenu, alors pour les deux premières tranches, on peut être un certain nombre à être concernés. Il faut savoir que s'ils baissent les impôts et qu'ils augmentent pas les impôts des riches, de toute façon, il y a quelque chose qui va bloquer. Et ce qui va bloquer, c'est que pour continuer à donner des dizaines de milliards aux milliardaires, à ces bourgeois et aux grandes entreprises, il faut qu'ils trouvent l'argent quelque part. L'argent, ils vont la trouver dans notre poche d'une manière ou d'une autre. Dans notre poche, c'est les 120 000, alors il paraît qu'il ne veut plus supprimer 120 000, mais en tout cas des dizaines et des dizaines de milliers de suppressions d'emplois dans la fonction publique. C'est s'attaquer au budget de la santé, c'est s'attaquer au budget de l'éducation nationale, c'est s'attaquer au budget qui nous permette à nous, travailleurs, de vivre dans notre quotidien. Et donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous allons payer la note de toute façon à l'arrivée. Alors c'est ça qu'on veut dénoncer d'abord dans cette campagne électorale, parce que si les travailleurs ne veulent plus subir, là aussi il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. C'est qu'il va falloir qu'ils se mobilisent. C'est par les luttes collectives, par la mobilisation, qu'on pourra défendre nos intérêts dans cette société. Et ça, c'est une idée qu'on met en avant dans ces élections, parce qu'elle nous paraît de toute façon, c'est pas qu'elle nous paraît, mais elle est complètement incontournable. Depuis des années, l'État et les différents gouvernements protègent les intérêts des riches. Là, je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Vous savez, il veut supprimer quelques niches fiscales pour les grandes entreprises. Les niches fiscales, c'est des bidouilles, tout à fait légales, mais c'est des bidouilles qui permettent aux grandes entreprises de ne pas payer une certaine partie de leurs impôts qu'ils devraient payer à la société, à l'État. Bon, on l'a entendu de la bouche d'un ministre, Darmanin, c'est 40 milliards. 40 milliards de niches fiscales que les grandes entreprises devraient payer et qu'ils économisent chaque année. Voilà. Donc ça c'est énorme. Et c'est aussi 40 milliards de CICE, c'est le crédit impôt recherche, tous ces milliards qui sont versés à fonds perdus, d'aide publique à fonds perdus dans les grandes entreprises. Et ça c'est la feuille de route que s'est fixée Emmanuel Macron. Eh bien il faut que les travailleurs, eux, ils fixent, qu'ils annoncent, qu'ils mettent en avant un programme de lutte pour défendre leurs intérêts avec des objectifs de lutte. J'y reviendrai plus tard, mais quand on voit comment nos conditions de vie se sont dégradées ces dernières années, quand on voit comment le chômage a explosé, comment le pouvoir d'achat a été attaqué, a été entamé, rien qu'à voir le mouvement des Gilets jaunes, il a été révélateur, il a exprimé au moins très clairement, il a réussi par cette mobilisation à mettre au centre du débat, il y a quelque temps, la question du pouvoir d'achat. Parce que ça fait des années qu'on prend des coups, qu'on se serre la ceinture pour que les riches s'enrichissent. Aujourd'hui, vivre dignement de son salaire, vivre dignement de sa pension de retraite, c'est devenu impossible. C'est devenu impossible de se soigner correctement. On fait de plus en plus d'heures d'attente aux urgences, il y a de moins en moins d'infirmières, parce qu'il y a de moins en moins de moyens, parce que les hôpitaux publics sont gérés comme des entreprises, sur la base du profit, que les EHPAD, ça se dégrade, tout le monde le sait, c'est vraiment révoltant et scandaleux, parce que là aussi, les EHPAD sont gérés, appartiennent à des groupes privés extrêmement riches, et qui sont gérés sur la loi du profit. La loi du profit, ça veut dire que bah, vous diminuez le personnel, vous sacrifiez les moyens, et puis vous faites de l'argent sur le dos de nos anciens, sur le dos de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est comme ça qu'elle marche, la société. Et ça devient impossible de vivre dignement de son salaire, de vivre dignement de sa pension de retraite, et on voit par tous les bouts comment nos conditions de vie reculent. Pourtant, la France est un pays riche, est un pays extrêmement riche. On a eu l'occasion de voir comment, avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, avec quelle facilité les grandes familles bourgeoises de ce pays ont réussi en moins de 48 heures à poser 1 milliard d'euros sur la table. Quand vous avez Bernard Arnault qui met 200 millions sur la table, c'est vrai que ça impressionne, ça nous impressionne. 200 millions, 100 millions, alors, famille Bettencourt, famille Arnault, famille Pinault, Michelin, il a dit qu'il donnerait, mais il n'a pas encore annoncé combien. La famille Peugeot aussi, ce sont des familles extrêmement riches qui aiment bien faire des coups de cul, mais au final, on ne sait pas combien ils vont donner. Enfin bon. Là, on les a vus sortir du bois, les bourgeois. On les a vus sortir du bois parce que ça a été plus fort qu'eux. Ça a été une manière, évidemment, un coup de pub, un coup de com' qui se sont faits à notre dépens, parce que c'est quand même 60% de déduction fiscale sur 200 millions, c'est-à-dire que c'est nous. Moi, je vous dis franchement, moi, je ne donnerai pas pour Notre-Dame de Paris, parce que c'est déjà fait au moins deux fois dans cette affaire-là. C'est bon, personnellement, je pense que j'ai déjà largement assez donné dans ce truc-là. Maintenant, oui, ils sont extrêmement riches. Et Bernard Arnault, ce qu'il faut bien voir et bien comprendre, c'est que pour eux, ils font ça tous les jours. C'est sorti dans la presse au grand jour à l'occasion de cet incendie, mais Bernard Arnault, récemment, il s'est acheté un yacht de luxe, 130 millions. Boum, il a mis 100, mais pour lui, c'est rien du tout. Proportion gardée, avec la fortune qu'il s'est faite, ça serait l'équivalent si on donne 2 euros à un SDF. C'est exactement pareil, 200 millions pour lui. Bernard Arnault, je donne juste cet exemple-là parce que c'est un magazine américain fort qui s'amuse tous les ans à calculer et à faire le classement des milliardaires les plus riches de la planète. Cocorico, le quatrième, c'est un Français, Bernard Arnault. Il a une fortune estimée à 67 milliards. Estimée parce qu'on n'est pas forcément à un milliard ou deux près, on n'arrive jamais à estimer précisément ces affaires-là. L'année dernière, il a gagné 3,5 milliards. 3,5 milliards en 2018, ça veut dire que est tombé un SMIC toutes les 20 secondes. Un SMIC toutes les 20 secondes. Là, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle ensemble. Il est déjà très riche, le gars. Voilà. Mais c'est pour vous dire, ces gens-là, pour que ces gens-là continuent à vivre dans le luxe, pour que ces gens-là continuent à ce que leurs entreprises, Bernard Arnault, c'est le propriétaire du plus gros trust mondial de luxe. C'est LVMH, donc c'est Dior, c'est toutes ces entreprises qu'on connaît de nom, mais alors pas question pour nous d'y mettre le nez dedans. Mais pour que ces gens-là continuent à vivre dans le luxe, il faut que nous, on crève. Elle est là, la vérité. Il faut que nous, on se serre la ceinture. Au nom de la compétitivité, au nom de la rentabilité, au nom que pour rester compétitif, pour que les capitalistes ils puissent continuer à protéger leurs profits, à protéger leurs dividendes, il faut que nous, on se serre la ceinture. Et quand je dis serrer la ceinture, c'est assez soft quand je parle comme ça. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas étonnant qu'il y ait des mobilisations en France. Et nous, on est convaincus que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans un avenir proche, plus ou moins proche, de toute façon, il y aura d'autres mobilisations. Parce que cette politique d'attaque contre nos conditions de vie, non seulement elle va continuer, mais elle va s'accentuer parce qu'on est dans une crise économique extrêmement grave, qui ne peut que s'enfoncer, et que les capitalistes, pour qu'ils survivent, de toute façon, ils se font la guerre entre eux, mais ils se font la guerre sur le dos de la société avec notre peau. Donc de toute façon, cette politique, elle va s'accentuer et ça va générer d'autres mobilisations et d'autres contestations, des grèves, des manifestations. Et nous, on se présente dans ces élections européennes justement pour mettre en avant des objectifs de lutte, un programme de lutte, une perspective qui seront utiles aux travailleurs quand ils auront repris confiance dans leur force collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on présente des objectifs de lutte qui permettraient aux travailleurs, quand ils seront mobilisés, d'imposer des conditions et de défendre leurs intérêts. Si on parle du pouvoir d'achat, qui a été mis dans le cœur du débat par les Gilets jaunes, bah pour nous, régler le problème du pouvoir d'achat, ça veut dire augmenter les salaires, augmenter les allocations, augmenter les pensions d'invalidité, augmenter les pensions de retraite. Pour nous, ça, c'est le minimum du minimum. Mais c'est sûrement pas où il faudrait se limiter à ça. Il ne faudrait pas que les travailleurs se limitent à simplement arracher, imposer des augmentations de salaire. Parce que ça s'est vu dans le passé. En mai 68, il y a eu grève générale, 10 millions de travailleurs dans la rue, une augmentation de 30% du SMIC. 30% du SMIC, c'est pas rien. Ça a été important, ça a été un succès. Mais en quelques mois, ça a été repris, bouffé par l'inflation. Ça veut dire que là, si on regarde le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a démarré contre l'augmentation des taxes sur les carburants. Bon, ils l'ont gagné. Ils ont gagné le gel pour un an de cette augmentation de taxes sur les carburants. On a encore 6 mois devant nous, d'après ce que Macron a dit. Mais quand on regarde le prix du gasoil, quand on regarde le prix de l'essence aujourd'hui, après une courte baisse, on se retrouve à payer l'essence ou le gasoil bien plus cher qu'au moment du 17 novembre. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, il n'a pas réussi à imposer quelque chose qu'il faudra que les travailleurs ils imposent par leur grève, par leur lutte collective, un système qui fait que, une fois que nos salaires, nos pensions de retraite sont augmentées, il faut que nos retraites et nos salaires augmentent en même temps que l'augmentation du prix. Des prix de la vie. Parce que sinon, ça sera toujours nous qui serons les dindons de la farce. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit plus arriver, c'est quelque chose qu'on conteste et qu'il faudra de toute façon combattre. Sur le chômage, qui gangrène la société tout entière, ce que les travailleurs en grève devront se battre, c'est d'interdire les licenciements, d'interdire les fermetures d'usines et de répartir le travail entre tous, sans toucher au salaire, sans baisser les salaires. Ça veut dire faire entrer les chômeurs dans les entreprises. Imposer l'embauche des chômeurs dans les entreprises pour se répartir le travail entre tous, c'est-à-dire avoir plus de bras pour travailler tous et travailler moins. Parce que quand on voit les bénéfices, les dizaines de milliards de bénéfices que l'on crée tous les jours, ça devrait servir à financer les embauches, ça devrait servir à financer l'augmentation des salaires et l'augmentation des pensions de retraite. Et puis, une des questions que les Gilets jaunes ont un peu mis à l'ordre du jour quand ils étaient très mobilisés, c'était sur le contrôle de l'utilisation de l'argent public. Alors, quand on parle du contrôle de l'utilisation de l'argent public, c'est l'argent de nos impôts. Je dis nos impôts parce que les riches, ils n'en payent plus d'impôts. Ils en payent de moins en moins des impôts. Que ce soit avec Macron, Sarkozy, Hollande, tous ont été de leurs petites mesures, de leurs petites décisions qui ont fait qu'aujourd'hui les riches ne payent pratiquement plus d'impôts. Eh bien, c'est légitime de poser la question de contrôler l'argent public, l'utilisation de l'argent public, l'utilisation de l'argent de nos impôts. Mais c'est tout aussi légitime de vouloir contrôler l'utilisation de l'argent privé, de l'argent qui sort de notre travail, qui est issu de notre travail. Ces milliards de bénéfices de ces grandes entreprises privées. Parce que c'est nous qui les avons fabriquées. C'est nous, les travailleurs, qui les avons fabriquées. Je prends l'exemple de l'entreprise où je travaille, c'est le groupe PSA qui fabrique les voitures, Peugeot Citroën. L'année dernière, les CDI, les intérimaires, les sous-traitants, les fournisseurs ont fabriqué 3,3 milliards de bénéfices. Ces 3,3 milliards de bénéfices, nous, on n'a pas notre mot à dire sur leur utilisation. C'est uniquement les actionnaires de PSA qui vont décider de leur utilisation. Et c'est entre autres la famille Peugeot, une famille multimilliardaire, historique en France. Voilà. C'est eux qui vont décider si telle partie va partir en bourse, va peut-être s'investir dans le groupe PSA, ou va aller carrément directement dans la poche des actionnaires. Et ça, on doit le contester. Les travailleurs, ils doivent le contester. Ils doivent mettre leur nez dans les comptes des entreprises. Ils doivent imposer leur contrôle sur les décisions des conseils d'administration des grandes entreprises, parce que on voit aujourd'hui cette société qui est dirigée par ces grands bourgeois faire tout et n'importe quoi, mais surtout s'enrichir sur le dos de la société. Alors, nous, on est convaincus, de toute façon, il faut que les travailleurs défendent leurs intérêts. Mais défendre ses intérêts, ce qu'on dit dans cette campagne électorale, c'est que ça commence par avoir conscience contre qui on doit se battre et pourquoi on doit se battre. Contre qui on doit se battre, on entend souvent dans les manifestations des Gilets jaunes, mais c'est aussi repris par un certain nombre de partis de gauche, puis aussi de la gauche de la gauche, Macron démission. Il faut que Macron dégage. Bon. Macron, il serait obligé de démissionner suite à un grand mouvement social, suite à des manifestations de rue comme on peut le voir en Algérie. Vous avez sans doute suivi en Algérie, ça fait des semaines que des millions de travailleuses et de travailleurs en Algérie manifestent, et ils ont remporté un premier succès, c'est le fait que Bouteflika ne remplit pas pour un cinquième mandat. Mais le problème, il reste entier pour eux. Le système, il reste en place. C'est-à-dire que derrière, il y a un autre pantin, c'est le meilleur copain de Bouteflika qui, pendant 90 jours, va gérer les affaires de l'État et va gérer les affaires des riches là-dedans. Nous, si Macron devait dégager, ça serait sans doute considéré comme un succès. Mais le problème, il resterait entier, parce que derrière Macron se cachent ces bourgeois dont j'ai parlé tout à l'heure, ces grandes familles bourgeoises, les Pinault, les Bettencourt et les Arnault. C'est eux qui décident de la feuille de route que Macron est chargé d'appliquer. Macron, c'est le président des riches. C'est lui qui décide de quelle manière une politique publique, une politique d'État, peut au mieux défendre les intérêts des milliardaires, défendre les intérêts de ces bourgeois. Je vais parler d'un exemple, vous vous souvenez sans doute, c'est la démission de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'était le ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron, ministre d'État numéro 2 dans la hiérarchie du gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas rien, il n'y avait pas un strapontin. Il a démissionné en faisant cet aveu qu'il avait en face de lui des lobbies contre lesquels il ne pouvait pas lutter. C'est quoi ces lobbies? Lui, il appelle ça des lobbies, nous, on appelle ça les capitalistes, les bourgeois. C'est qui? C'est les actionnaires d'Areva, c'est les actionnaires du nucléaire, c'est les actionnaires des grandes compagnies de pétrole, les actionnaires de Total, c'est les actionnaires des entreprises de l'automobile, Renault, Peugeot, c'est les actionnaires de ces grandes industries des pesticides, Monsanto, c'est les industriels du plastique. Eux, ils ont un pouvoir tellement énorme que face à eux, un ministre d'État comme Nicolas Hulot ne peut pas agir. Il n'a pas de pouvoir face à eux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que derrière Emmanuel Macron, derrière les ministres, il y a une classe sociale, la bourgeoisie, qui dirige tout. Elle dirige tout parce qu'elle possède les grandes entreprises. Elle possède le capital. Et avec ça, elle achète tout. Et tout leur est dû. Et tout fonctionne pour leurs intérêts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, on veut pas, on se donne pas comme objectif de virer Macron, de virer le macronisme. Nous, on se donne comme objectif, il faut que les travailleurs se donnent comme objectif, d'abattre le capitalisme et de virer les capitalistes, de virer les bourgeois et de prendre leurs entreprises. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution tant que les bourgeois, les capitalistes dirigeront la société, tant que ces grandes entreprises leur appartiendront, on n'aura de cesse, nous, travailleurs, que de lutter et de lutter encore. Alors ça, c'est une conscience qu'il faut avoir, et nous, dans cette campagne électorale, On est les seuls, quand vous écoutez bien les uns et les autres, on est les seuls à dénoncer ces grandes familles bourgeoises qui font la pluie et le beau temps en France. Et on est les seuls à défendre cette idée que les travailleurs doivent contester la domination de cette bourgeoisie sur l'ensemble de la, sur l'ensemble de la société. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors après, se battre, pourquoi ? Eh ben, c'est tout le programme de lutte et les objectifs de lutte que j'ai décrit tout à l'heure. C'est les salaires, l'augmentation des salaires, c'est contre le chômage, l'interdiction des licenciements, et c'est le contrôle des travailleurs sur tout ce qui peut se décider dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, juste pour finir, pour nous, c'est évident, parce qu'on est communiste, c'est évident que des mobilisations, des contestations, il va y en avoir dans l'avenir. C'est pour nous quelque chose qui ne fait pas débat. Alors, on va pouvoir en discuter, hein. C'est pas, je ne ferme pas le débat, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, pour nous, c'est une évidence. Pourquoi nous, on mise sur les révoltes, les futures révoltes, les futures mobilisations de la classe ouvrière ? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on discute, c'est ça qu'il faut avoir conscience. Parce que d'abord, on est convaincu et on le défend dans cette campagne électorale, le changement pour les travailleurs ne peut venir que par en bas. C'est l'exemple des mouvements des Gilets jaunes, c'est l'exemple de l'Algérie, c'est l'exemple du Soudan. Quand vous avez des millions de travailleuses, de travailleurs qui descendent dans la rue, cette force collective, cette force sociale qui s'exprime et qui se manifeste, c'est ça qui peut faire peser sur les événements. C'est ça qui peut faire peser sur les décisions du pouvoir public, politique. C'est ça qui peut peser sur les décisions des grandes entreprises. Et sur la classe ouvrière, pourquoi on mise sur les révoltes, les futures révoltes de la classe ouvrière ? Parce que les travailleurs sont au cœur du système. Ils sont au cœur de la bête. C'est eux qui fabriquent l'ensemble des richesses. C'est eux qui font fonctionner l'ensemble de la société, que ce soit dans le privé ou dans le public. Le moindre travail, la moindre activité, derrière, il y a une travailleuse, il y a un travailleur, en chair et en os. Sans le monde du travail, la société, elle ne peut pas fonctionner. Les bourgeois ne peuvent plus s'enrichir. Et il est là le levier efficace pour faire bouger les choses, pour peser sur les événements. Si on prend exemple sur les Gilets jaunes, je ne veux pas démarrer la polémique, mais occuper les ronds-points, c'est bien. Mais occuper les usines, occuper les entreprises, occuper les banques, c'est mieux. Parce que c'est là où on a un levier, on a une force pour imposer, pour que les travailleurs imposent leurs conditions face au pouvoir politique, mais aussi face aux actionnaires des grandes entreprises. C'est là où on peut faire bouger les choses. Alors, on est aussi communiste à lutte ouvrière et on fait tous le constat qu'on n'est pas encore à ce niveau de combativité et qu'on n'est pas à ce niveau de conscience de la part de la classe ouvrière, de la part des travailleurs. Mais ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de défendre des idées aujourd'hui, dès maintenant et à travers cette campagne électorale, de défendre des objectifs de lutte qui seront utiles au moment où les travailleurs ils ont corrompu, ils se mettront en grève, ils descendront dans la rue, ils exprimeront leur colère. Parce que c'est dans ces moments-là où il faudra qu'on s'organise, où il faudra qu'on s'unisse, où il faudra justement qu'on réfléchisse contre qui on doit se battre et pourquoi on doit se battre pour être le plus efficace et pour aller le plus loin possible, pour les faire reculer le plus loin possible. Mais là où il y a quelque chose de toute façon qu'il ne faut pas perdre dans la situation actuelle, c'est cette confiance inébranlable dans la capacité des travailleurs à se mettre en grève, à manifester, à occuper leurs entreprises. Ça, il ne faut pas perdre confiance dans les travailleurs parce que de toute façon, à un moment ou un autre, ça va arriver. Et on le sent tous, c'est dans ces moments-là où tout devient possible, mais aussi c'est dans ces moments-là où on peut perdre beaucoup parce qu'on s'est trompé de chemin. Notre boulot de militants, et dans ces élections européennes aussi, on le défend cette idée-là, c'est qu'il faudra qu'on aide les travailleurs à prendre le chemin le plus efficace pour que leurs intérêts soient défendus au mieux et pour qu'on les fasse reculer le plus loin possible. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra se sortir de cette société dans laquelle on est, avec tous les dangers qui nous pendonnaient, crise économique, crise sociale, crise Crise écologique, j'en ai pas parlé, mais on pourra en parler dans le débat. Mais en tout cas, l'avenir appartient aux idées de la lutte de classe, et c'est ça qu'on essaye de remettre à l'ordre du jour dans ces élections européennes.